La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Madame, messieurs, bienvenue à La quotidienne. Mon nom est Michel Cloutier, je suis en compagnie d'Izzy Lévesque, comme à l'habitude. Bonjour Izzy, comment ça va?
Bonjour Michel, ça va super bien.
Oui, on s'en va ce matin, on a l'habitude de le faire en début de semaine, du côté d'Yannick Patelli, éditeur de La Vie agricole, qui est en studio avec nous,
oui.
Accompagné de Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon. Bonjour, messieurs.
Bonjour à vous tous.
Et ce matin, vous avez un invité, comme à l'habitude, et vous allez nous parler de quoi?
Eh bien, en fait, on va parler de consultation, on va parler de feux de forêt, d'électrification du Québec, en fait, des sujets d'actualité agricole au Québec. Mais l'invité qu'on a dans la quotidienne, c'est parce que j'ai reçu un courriel d'un certain Michel Paradis que je ne connaissais pas. Et en fait, je trouvais ça intéressant parce que j'ai regardé un petit peu son parcours, expérience politique, il va nous en parler tout à l'heure, mais il a été pendant 10 ans conseiller spécial, directeur aux politiques et directeur de cabinet par intérim, au fédéral, entre autres, développement économique Canada pour les régions, ensuite cabinet du ministre secrétariat aux affaires autochtones. Donc je trouvais que le parcours intéressant, et aujourd'hui il est consultant pour une compagnie qui s'appelle Comenia, et je trouvais intéressant, j'ai vu aussi un texte qui était paru dans les affaires récemment, où il référait en fait l'impact sur les changements climatiques en lien avec les feux que nous avons eu cet été. Mmh. Et j'ai ramassé plusieurs petits sujets agricoles que je trouvais intéressants comme ex-directeur de cabinet et maintenant consultant, on pourrait échanger avec lui. Bonjour Monsieur Paradis, je pense que vous êtes en ligne avec nous.
Oui, tout à fait. Bien, bonjour.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Peut-être avant de rentrer dans certains sujets d'actualité, je vous ai un peu présenté comme étant un directeur de cabinet, ou un assistant de cabinet. Je ne sais pas si vous étiez attaché de presse, attaché politique, directeur de cabinet. C'est quoi votre rôle dans les cabinets et à quelle époque? 2008?
Ma première expérience remonte à 2008. Donc, vous vous rappellerez peut-être du ministre Denis Lebel, mm-hmm, au fédéral. Donc, ouais, j'ai pu être conseiller économique et directeur aux politiques, tant à Développement économique Canada, aux affaires intergouvernementales, transport et infrastructures. Et puis les 4 dernières années, donc dans le cadre du dernier mandat du gouvernement du Québec actuel, donc j'ai œuvré donc comme conseiller spécial au secrétariat des affaires autochtones et par la suite au ministère de la forêt, de la faune et des parcs. Donc, ça vous indique un peu pourquoi la notion de développement durable, notamment, là, est devenue avec le temps là, un sujet qui m'a énormément intéressé et qui me touche encore aujourd'hui.
Alors, et quand vous quittez la vie politique, en fait, vous vous positionnez comme consultant, vous ouvrez une compagnie qui s'appelle Comenia.
Oui, tout à fait.
Et vous trouvez accompagner à la fois les ministères, à la fois les entreprises ou simplement des ministères?
Non, vraiment, j'ai décidé de pouvoir revenir un peu à ce que je faisais avant mon arrivée en politique, c'est-à-dire d'accompagner la petite et la moyenne entreprise. Et puis, dans un contexte où on l'a vu cet été, vous me parliez des incendies tantôt, où finalement, soit changement, soit dérèglement climatique, on utilisera le terme qu'on voudra. On vit dans une période de transition au niveau économique et dans ce contexte-là, c'est sur ces enjeux-là maintenant là, que je souhaite accompagner la petite et la moyenne entreprise, que ce soit au niveau des ressources naturelles, la foresterie, l'agriculture, les pêches, bref, tout ce qui est vivant, en fait. Donc, c'est vraiment mon secteur d'activité maintenant.
Tout ce qui peut, à un moment donné, dépendre du climat, je présume, c'est ça?
Exactement, oui. De plus en plus, on en est dépendant. On l'a vu cet été, les feux de forêt, qui auraient pu prévoir près autant de kilomètres carrés à être complètement détruits. On l'a vu au niveau des producteurs de fraises, au niveau cet été, les inondations et autres. Bref, oui, tout ce qui est vivant et tout ce qui peut finalement remettre en question des pratiques actuelles.
Et quand on est conseiller en développement durable auprès de petites entreprises, de PME, comment au quotidien on les accompagne, ces PME?
Mais en fin de compte, c'est surtout sur la question de la prise de décision. Non, c'est difficile désormais là de pouvoir prendre une décision d'affaires comme on pouvait le faire auparavant. Quoique peut-être qu'implicitement avec le temps, les gens le faisaient, mais d'avoir une approche qui tient davantage compte désormais d'une notion qui est très importante en développement durable, qui est celui de la pérennité, le long terme. Et pour des entreprises qui se doivent d'apporter des changements à l'intérieur de leur manière de faire, les employés ou les gens qui sont nos fournisseurs, notre environnement externe, est habitué de faire affaire avec nous comme chef d'entreprise d'une certaine manière. J'apporte une nouvelle façon de faire. Quelle va être la réceptivité? Et je le fais aussi pourquoi? Ben, dans un contexte où de plus en plus au plan réglementaire, on sait qu'au niveau de l'environnement, les normes deviennent de plus en plus strictes. Des type d'accompagnement qui tient compte désormais de ce qu'on appelle les critères ESG, donc l'environnement, l'acceptabilité sociale et les enjeux de gouvernance, deviennent de plus en plus importants, nécessaires, parce que ça a un impact sur la perception même que notre entreprise va avoir dans notre milieu, dans notre communauté. Au niveau des employés.
Mais je comprends donc en fait que vous accompagnez les PME pour les aider à correspondre aux critères des attentes sociétales en développement durable.
Mais notamment, évidemment.
Mais comme on le sait, les PME sont souvent un peu dernière minute, sont souvent des fois à court de trésorerie, sont souvent prises avec l'inflation, ont bien d'autres priorités que le développement durable. Comment vous arrivez à faire cette synergie entre les besoins des attentes sociétales, les règlements du gouvernement qui s'imposent et en fait la réalité des PME? Comment ils gèrent ça?
En fait, c'est beaucoup plus. Vous avez raison sur votre constat, à l'effet que nos chefs d'entreprise, là, dans leur day-to-day, là, excusez-moi l'anglicisme, mais dans leur quotidien, c'est évident là, que ce n'est pas les enjeux de concept de développement durable là, qui permettent de faire fonctionner l'entreprise. Sauf que malheureusement, c'est plutôt les faits qui rattrapent la réalité de l'entreprise et qui obligent désormais certains chefs d'entreprise à se remettre en question. Regardez simplement les inondations qu'on a eues cet été. Mm-hmm. Inévitablement, ça remet en question, et il y a des chefs d'entreprise qui se remettent en question sur, écoute, est-ce que ma manière de faire va être efficiente? Est-ce que je peux avoir accès nécessairement soit à des informations ou à des connaissances qui peuvent me permettre d'optimiser finalement ma productivité alors que je suis dans un contexte où il y a des variables désormais sur lesquelles c'est beaucoup plus difficile de pouvoir les prévoir? Dans un deuxième temps, ben oui, j'ai peut-être l'option de pouvoir, établir une nouvelle manière de faire. Peut-être même on parle de robotisation, on parle d'automatisation. Bref, mais est-ce que j'ai accès à de l'aide financière? Donc, et vous le savez, on ne se le cachera pas, là, se retrouver dans les différents programmes gouvernementaux peut parfois être un véritable pèlerinage, là, sans faire de jeu de mots. Donc, important auprès des chefs d'entreprise. Donc, le travail que je fais ou que je tente de faire vraiment, c'est de pouvoir alléger, si vous voulez, le travail des chefs d'entreprise, leur ouvrir des portes et leur donner accès à des ressources qui, autrement, ils n'auraient jamais eu accès. Là.
Il y a un point également dans le texte que j'ai vu dans le journal Les Affaires, en fait, que vous aviez signé, où vous parlez d'une nouvelle approche. Et j'aimerais ça que vous nous... Parce qu'en fait, on a eu une entrevue récemment avec Thibault Rennes de Vigilance OGM qui semblait insatisfait des consultations des gouvernements envers son organisation. Puis vous écrivez, dans son ensemble, le modèle de consultation en place au Québec repose principalement sur des consultations publiques, par le biais de commissions, de consultations écrites, de consultations en ligne. Les critiques sont nombreuses. Tout d'abord, il lui est reproché de ne pas tenir compte des résultats de ces consultations lors des décisions définitives. D'autres estiment que les modèles actuels favorisent les groupes d'intérêt, les lobbies, au détriment des citoyens ordinaires. Est-ce que vous qui avez été dans les sphères du pouvoir, en fait, est-ce qu'effectivement vous diriez que les gouvernements n'entendent plus les citoyens?
C'est qu'en fait, non, je n'irai pas jusque-là, non. Mais je vous dirais que c'est... Vous savez, il y a des sujets qui peuvent être traités de manière très cartésienne, très rationnelle. Et il y a d'autres enjeux qui ont une dimension beaucoup plus sensible et beaucoup plus émotive. On est plus dans le pathos. Je n'irai pas dans le secret de cabinet, mais peut-être que vous avez été témoin à un moment donné d'une consultation d'une commission indépendante qui avait pour objet de connaître au niveau régional la position de différents intervenants concernant le caribou forestier. Mm-hmm. Bon. Et qu'est-ce qui en est ressorti? C'est que finalement, les travaux des commissaires, et c'est ce qui a été édicté dans les médias, c'est qu'on a pris finalement les commentaires et on les a retransmis aux décideurs. Bon. On sait que c'est un sujet et il y en a d'autres qui vont venir. Avec les enjeux climatiques et tout, soyez certains que nous, notamment au niveau régional, on va vivre de plus en plus des effets et des prises de position et qui vont avoir un impact dans le quotidien des gens. Donc, ce faisant, lorsqu'on est touché personnellement, c'est beau avoir toute la rationalité qu'on voudra, mais on est touché dans notre vécu. Alors, c'est pas nécessairement les mêmes réactions. Donc, est-ce qu'actuellement, le simple fait d'avoir des commissions parlementaires qui, des commissaires qui, de bonne foi, écoutent différents intervenants, sont véritablement en mesure d'avoir une réaction réelle ou vraiment à l'écoute de la population, alors que, et c'est toujours dans un mode de confrontation, on le remarquera, On n'a pas encore cette approche, et c'est ce que j'aimerais qu'une réflexion puisse se faire, c'est que au lieu que les commissaires puissent être en mode d'écoute un après l'autre, chaque comité, chaque organisme passe l'un après l'autre, est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir éventuellement ce que j'appellerais la notion de table ronde où, au plan régional, on sera en mesure de pouvoir à la fois écouter soit des gens qui sont pro-environnementalistes, des personnes qui sont des travailleurs, par exemple, du secteur agricole ou du secteur forestier ou du secteur des pêches, et bref, qu'il puisse y avoir un véritable dialogue. Parce que tant aussi longtemps que le mode actuel de consultation ne sera pas remodelé et actualisé en fonction d'une économie qui elle-même est en transition et où les impacts, l'interaction devient de plus en plus tendue, moi, honnêtement, je pense que comme gouvernement, peu importe le parti qui sera au pouvoir, là, on parle vraiment d'État, je crois que le gouvernement du Québec et bien d'autres au Canada, on est maintenant dépassé par rapport à la réalité quotidienne des enjeux auxquels on doit faire face. Et si de plus en plus, cette tendance de fond qui est à l'effet de dire que moi, comme citoyen, j'ai pas la capacité de pouvoir de représenter mes intérêts comme tel groupe de pression c'est son travail de le faire. Ben oui, imaginez-vous à quoi. Moi, la crainte que j'ai, c'est qu'éventuellement, on aura des citoyens, des citoyennes qui ne verront plus la pertinence de pouvoir contribuer au débat public. Et ça, dans ce contexte-là, je trouve ça dangereux, honnêtement. Oui.
Est-ce que la situation actuelle aussi amène pas les PME dans une drôle de situation? Ce que je veux dire par là, c'est que les changements climatiques amènent des éléments qui doivent tenir compte, qui affectent leur production, mais en même temps, les outils et les changements qu'ils doivent apporter doivent tenir compte d'une espèce d'aspect... je vais appeler ça d'image publique, de marketing. C'est-à-dire, les changements climatiques viennent toucher ma production. Il y a peut-être des solutions pour arranger ça, mais non seulement il y a des solutions, je dois choisir celles qui vont me donner une belle image publique au niveau de tout ce qui est environnemental.
Oui. Ben, écoutez, c'est un des éléments premiers. Lorsque je parlais des critères ESG, donc au niveau environnemental, social et économique, en fin de compte, ce que vous venez de dire touche exactement à deux éléments important et qu'on n'entend pas parler très, très, très souvent. Entre vous et moi, là, si je vous parle de développement durable et tout ça, vous allez me parler des débats, OK, on veut protéger la biodiversité, puis c'est très bien, c'est parfait. Mais ce n'est pas que ça, et ce n'est surtout pas que ça. C'est que lorsque l'entreprise, un chef d'entreprise qui est conscient de pouvoir amener une autre manière de faire ou de peut-être changer, je sais pas, on peut parler d'engrais, par exemple, dans le secteur agricole, il y a eu des débats là-dessus. Bon, est-ce que je peux faire autre chose? Mais comme vous le dites vous-même, de quelle façon le tout va être accepté? Il y a une question de perception. Et puis, la question de perception, si le chef d'entreprise le fait parce que c'est ça sa finalité, c'est-à-dire je vais faire les ajustements pour justement montrer patte blanche et démontrer que finalement, oui, je correspond à la norme et je suis une référence, là, peut-être qu'il y aura... Vous savez, les gens sont pas idiots. Ils vont quand même percevoir un peu que, bon, mais écoute, oui, tu veux le faire pour ça, mais dans les faits, quels sont les véritables gestes que tu poses pour aller dans cette direction-là? Et finalement, comme chef d'entreprise, il ne le fera pas pour une perspective à court terme. Il va le faire dans une perspective de pérennité dans sa prise de décision. Donc, ce faisant, il y a quand même deux éléments excessivement importants dans justement le fait de faire ces gestes-là, de poser des actions, c'est de s'assurer que du même souffle, dans sa grille d'analyse, oui, au niveau, c'est pour réduire l'impact environnemental, certes, mais il se doit de s'assurer, bien évidemment, de l'acceptabilité sociale, mais pas simplement au niveau de ses fournisseurs et des gens à l'externe, mais aussi à l'intérieur de son entreprise, parce que ça veut dire aussi possiblement des impacts au niveau de son personnel et autres. C'est des choses qui peuvent arriver, mais l'impact économique, il est fondamental. Et ce que je tente aussi de pouvoir véhiculer comme message, c'est que le développement durable, ça doit pas être perçu comme étant un fardeau additionnel sur les épaules des entrepreneurs, mais en fait, une opportunité à faire pour finalement améliorer une situation et qui t'assure une pérennité pour ton entreprise. Et ça, c'est le message qui est aussi important à véhiculer.
Non, je sais le défi.
Oui, je pense que M. Barnier, c'est à peu près tout le temps qu'on a pour l'entrevue, mais j'ai l'impression que c'est tellement intéressant, j'ai envie de vous garder pour la deuxième partie quand on va échanger sur votre entrevue.
Mais pourquoi
Donc,
pas.
Si vous êtes prêt à revenir après la pause, vous allez nous retrouver D'accord. avec Michel Saint-Pierre et Izzy.
Alors, on fait une pause, on revient dans un instant à la quotidienne.
écoutez la saison 2 de La vie agricole à Ma TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Ma TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin. Fromagerie L'Ancêtre, Fromagerie La Station, Fromagerie Les Basques, Laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7, en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Boissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondu et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole. Avec le partenariat de Nature Bélil, le spécialiste de la nutrition des poules en ville.
Nous voilà de retour à la quotidienne. Aujourd'hui, on est avec Yannick Patelli, éditeur de La Vie agricole, Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon, ma co-animatrice Isie Lévesque,
wow.
Et là comme à l'habitude. Et aujourd'hui, particulier pour ce deuxième segment où généralement on commente l'entrevue qu'on a eue en oui. début d'émission, on a décidé de garder notre invité avec nous, M. Michel Paradis, qui est toujours là. Bonjour, M. Paradis.
Bonjour,
M. Paradis. Effectivement, je trouvais trop intéressant votre dynamisme, entre autres, votre perception des choses. Et comme on a la chance d'avoir avec nous Michel Saint-Pierre, qui a été sous-ministre au MAPAC et qui est actuellement co-président de l'Institut Jean Garon, je trouvais intéressant de vous garder pour la deuxième section pour avoir cet échange avec Michel.
Et peut-être une petite parenthèse, mais avant qu'on continue, c'est... Et je pense que ce que a démontré une des parties de l'entrevue qu'on a écoutée tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment au niveau des entreprises dans une situation qui, selon moi, est sans précédent. C'est-à-dire une situation où tu travailles sur ta performance et ta rentabilité et que non seulement... Habituellement, l'image publique, on traite ça à côté. Mais là, tu ne peux pas traiter l'image publique à côté. Il va y avoir une interaction avec la décision que tu vas prendre sur ta productivité. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça va devenir aussi pire de dire que mes camions de livraison sont à essence ou sont à batterie. Tu sais, à un moment donné, on va en arriver là.
Tout à fait.
Je pense que c'est sans précédent. On n'a jamais eu, comme directeur d'entreprise, à avoir des choses qui sont autant interreliées.
Alors, Michel Saint-Pierre, notre mémoire des 50 dernières années.
L'encyclopédie.
C'est l'âge qui parle, là. Écoutez, en vous écoutant, je me disais, vous accompagnez des entreprises, des PME, qui sont normalement plus sensibles, plus sensibles aux grands enjeux dont on a parlé, enjeux environnementaux, climatiques, pérennité de nos pratiques, etc. Comment vous qualifieriez l'ensemble des entreprises? Parce que vous êtes dans un univers de PME, peut-être avec une petite, pour nous, un petit intérêt particulier pour le secteur agricole et agroalimentaire, mais de façon générale, est-ce que les PME comprennent et prennent le temps de regarder ces enjeux-là? Parce que vous dites, c'est un grand bouleversement, là, qui... Pour moi, là, on est en accéléré dans les changements lorsqu'on regarde les éléments qui vont influencer les performances, qui vont influencer la vie des entreprises. Est-ce que, de façon générale, ou encore, est-ce que vos entreprises sont l'exception dans leur univers?
Non, écoutez, je vous rejoins. Là, vous avez dit un mot qui qualifie tellement le contexte actuel, puis vous me corrigerez, mais j'ai entendu le mot accéléré, puis c'est tellement vrai. On va parler du général pour aller au particulier, mais de manière générale, écoutez, l'environnement dans lequel on est actuellement, l'été dernier, là, pour bien des personnes, ça a été comme un éveil, puis un réveil pour d'autres, là, dans le sens que certains étaient sensibles, mais que là, de dire que oui, que ce soit les feux, que ce soit les inondations, et pour bien des PME, et vous le savez, c'est le chef d'entreprise fait presque tout Alors, que ce soit le secrétariat, que ce soit la comptabilité, la mise en marché, oui, certains en équipe et tout, mais ne serait-ce que pour s'occuper d'avoir les travailleurs étrangers temporaires et tout. Écoutez, ces chefs d'entreprise-là ont 24 heures, là, et puis déjà, c'est peut-être pas suffisant. Alors, imaginez, en plus, de tenir compte là des impacts des changements climatiques et de tout, pour plusieurs, c'est le cas de je dirais presque toutes les entreprises. J'en connais très peu, moi, qui ont été si visionnaires et que du jour au lendemain étaient déjà préparés à ces impacts-là. Pour la plupart, les gens sont en réaction. Et je le comprends. C'est nos chefs d'entreprise font tout. Donc, ils peuvent pas, là, se multiplier par 2, par 10, par 15, hein, on le sait.
Ils ont pas un vice-président de planification et
voilà.
Bon, avec un parcours plus, je sais pas trop, environnementaliste et tout ça. Ils ont pas ça, eux. Excusez l'expression, non plus blesser les femmes. Ils sont hommes orchestre dans le sens de l'image qu'on se donne, la personne qui fait tout dans l'organisation.
Et, voilà.
Et c'est particulièrement vrai, évidemment, quand on est chef d'entreprise agricole et très souvent seul dans son tracteur aussi. Alors, il faut faire des pauses à ce moment-là, puis vous êtes un peu cette personne-là qui les amène à dire, ben voilà où nous sommes, voilà quels sont les enjeux. Est-ce que ça comprend, est-ce que je comprends de votre démarche?
Oui, exactement. Puis je reviens toujours à quatre mots-clés là, lorsqu'on débute une réflexion. La prudence, l'équilibre, la transparence et puis la pérennité. Et prudence, je vais vous donner un cas de figure bien générique là, mais bon, je suis chef d'une entreprise dans le secteur agricole, puis bon, là je me dois de pouvoir poser telle action. Bon, j'ai mon comptable qui me dit que je peux le faire. Par contre, je vais caricaturer un peu, mais j'ai peut-être ma belle-sœur ou mon beau-fils qui est dans un groupe environnementaliste, puis il me dit que vu que je change pas mes pratiques, c'est épouvantable, alors faut que je le fasse. Là, il est bombardé à droite, à gauche, avant, arrière. Prudence, OK, prends un recul, puis on va faire le tour de la question, mais au complet, même les points que t'aimes plus ou moins. Équilibre. Bon, mais écoute, bon, tu veux orienter, tu as fait le tour de la question. Maintenant, mais faut-tu y aller en fonction de qu'est-ce que tu es en mesure de pouvoir faire? C'est que l'implantation d'une nouvelle technologie ou l'achat d'un nouveau type de produit ou autre, bon, ben est-ce que en termes d'avantages et inconvénients, tu veux véritablement y trouver ton gain? Puis dans un deuxième temps, mais si on parle de technologie, est-ce qu'à l'intérieur de ton entreprise, vraiment, tu vas aller aussi de manière perfectionnée comme tu le vois, alors que ta capacité d'apprentissage ou de connaissance, bon, est-ce qu'on va bien t'entourer? Bref, l'équilibre, hein? Transparence, ben là, tu vas quand même poser des gestes qui peut-être auprès de tes fournisseurs ou auprès de tes 2-3 employés ou autres, ça va avoir un impact. Ou si tu es dans une communauté, bon, rurale ou autre, bon, veux pas, on le sait, hein, tu vas aller, je vais pas nommer, là, un supermarché, mais tu vas rencontrer dans la même allée du pain, là, ton directeur de compte, hein, ça peut arriver. Alors, bon, il y a tout cet enjeu de perception sur lequel tu dois aussi tenir compte, parce que, encore une fois, des changements de cette nature-là, c'est pas simplement au niveau administratif, c'est pas simplement de la gestion, mais c'est aussi un peu d'émotion puis de perception. Le mot, on l'avait dit tantôt, puis avec raison. Et pérennité. Il faut pas non plus faire des changements pour faire des changements. Est-ce que le changement que tu vas faire, ça va t'assurer d'avoir la pérennité de ton entreprise? Parce que tu vas vivre une transition, mais cette transition-là, à un moment donné, il va y avoir une fin, puis il faut mettre en place les moyens pour t'assurer que ça va pouvoir durer dans le temps. Puis j'ajouterais un autre élément, très rapide, c'est qu'on a aussi l'enjeu du transfert d'entreprise au niveau agricole, qui fait que les décisions que tu vas prendre, tu as des plus jeunes qui sont peut-être plus sensibles que toi aux enjeux environnementaux, de quelle manière tu vas les avoir impliqués. Là, j'entrerai pas dans le dossier fiscal au niveau des désavantages là entre le fédéral et le provincial là-dessus pour les enfants de la famille là, versus les étrangers, c'est un autre sujet. Mais toujours est-il que, voyez-vous, il y a un ensemble des éléments pour lesquels, en tout cas mon travail, ce que je tente de faire, c'est de prendre une vue en hauteur le plus possible pour avoir une vision à la fois transversale et aussi faire le tour au complet, un 360 degrés.
Parlant du gouvernement, Monsieur Paradis, je m'interromps sur ce point-là parce que, bon, évidemment, j'ai été dans la haute fonction publique pendant pas mal d'années. Je ne sais pas, est-ce que vous partagez l'impression que le gouvernement n'envoie pas un signal très, très fort dans ce sens-là, qu'il n'est pas beaucoup en mode d'accompagnement et je dirais, de présenter les menaces qui sont... j'ai l'impression que... cette voie-là, qui pourrait certainement vous aider dans votre démarche, pourrait certainement, enfin, me paraît être un peu faible. Voilà, c'est mon petit côté éditorial là, que je fais.
Ben, écoutez, si vous me permettez, je pourrais contresigner avec vous votre éditorial.
Ah bon?
Parce que, ben, en tout respect pour notre gouvernement qui fait ce qu'il peut, puis je le comprends parce que j'ai eu le plaisir de travailler aussi avec certains sous-ministres associés surtout, puis certains sont vraiment sensibles, mais il faut aussi avoir une volonté politique de pouvoir se dire que maintenant c'est une priorité. Et peu importe les gouvernements, on le sait malheureusement, c'est qu'on réagit souvent après coup. Et moi, j'ai comme l'impression que peut-être ce qui s'est passé cet été, malheureusement, va peut-être, et je le souhaite par contre, c'est que ça puisse donner un éveil sérieux pour que des décisions, puis que ceux, écoutez, je ne veux pas simplement parler pour moi ou mes collègues ou ma profession, là, mais tu sais, on se doit d'être plusieurs dans la chaloupe pour être capable de prendre chacun les rames puis ramer dans la même direction, mais vite aussi. Parce que les changements climatiques, eux, malheureusement, ce que j'en comprends, surtout cet été avec certaines personnes que j'ai rencontrées, ce qu'il y a de certain, c'est que les changements climatiques sont là. Ce qui est incertain, c'est le taux de gravité que cela va prendre. Puis je ne veux pas être alarmiste à cet effet-là, mais c'est plutôt ça et c'est pas nécessairement positif ce qui s'en vient. Et on le voit de plus en plus. Donc, à la fois, comment éviter d'être alarmiste, puis être à la fois réaliste, parce que c'est ce qu'il faut faire pour prendre une décision qui est éclairée. Ben, je pense que là, les éléments de fait qu'on a eu cet été, là, j'ose espérer que ça va faire un éveil.
C'est un peu le choc, à mon avis, qui peut aussi justement faire signer ce réveil-là. Il faut y mettre des ressources, il faut mettre des gens et transmettre des messages extrêmement forts sur la nécessité d'assurer cette pérennité-là. Les changements climatiques, quand on regarde en agriculture, bon, vont toucher, bien évidemment, ça se manifeste avec des grandes turbulences qu'on a vues, mais aussi des changements graduels dans, par exemple, les unités thermiques dans différentes régions. Alors, il y a un petit côté positif, même s'il est toujours l'insécurité vient des bouleversements et des grandes, comment dire, des grands changements qui arrivent à tout moment, mais il reste qu'il y a quand même cette évolution-là du côté, par exemple, des unités thermiques qui permet peut-être d'ajuster une agriculture à autre chose. Puis là, ben, à part de quelques-uns qui en ont parlé, ça ne s'est pas beaucoup manifesté, à mon avis, en action concrète. Là,
non, je vous dirais que ça vient quelquefois. Là, c'était plus lorsque j'étais au SAA, parce que ces projets-là venaient de là, là. Mais par exemple, la culture en serre, de plus en plus sur la côte nord et la basse côte nord, ben, c'était pas quelque chose qui était si fréquent auparavant. Puis vous le voyez, puis vous le dites aussi, unité thermique, on voit quand même qu'il y a des possibilités de nouveaux types de cultures qui sont entre revues de plus en plus, on les perçoit. Donc oui, c'est un élément positif. Et je veux juste ajouter un petit point, c'est qu'on parle de ça et c'est une des raisons pour lesquelles ça devrait être une priorité excessivement importante pour le Québec, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait de la volonté gouvernementale d'une souveraineté alimentaire encore plus importante qu'elle ne l'était par le passé, et ça causé par la pandémie qu'on a eue avec les impacts sur les chaînes d'approvisionnement. Donc, écoutez, je pense qu'on a tout en main pour finalement, oui, prendre conscience des effets néfastes des changements climatiques, de prendre des décisions et des orientations pour accompagner notre secteur agricole pour qu'il soit plus résilient. De plus en plus, on parle dans certains types d'autres secteurs d'activité, mais qui sont toujours avec ce que j'appellerais le vivant, là. Comment produire autant, mais peut-être sur un territoire un peu plus restreint. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer au niveau technologique, au niveau des produits qu'on utilise? Est-ce qu'il y a des veilles? Est-ce qu'il y a de l'information qui sont transmises? Est-ce qu'on est à la page? Où est-ce qu'on en est à cet effet-là? Écoutez, c'est un chantier en soi, hein.
Oui, mais ce dont vous parlez, c'est un peu notre quotidien à l'issue. Jean Garon, on est, je dirais, 100% engagé dans cette révolution, cette nouvelle révolution verte, dans ce changement-là, dans la diversification de notre agriculture et de notre... pour enfin avoir un véritable garde-manger.
J'ai écrit
l'autre jour une lettre d'opinion qui est parue dans Le Devoir et qui s'intitulait « Est-ce que nos terres agricoles sont vraiment notre garde-manger ?» Et bien sûr, j'y répondais dans le texte en disant non, certainement pas avec l'usage qu'on en fait, avec l'utilisation, par exemple, les cultures intensives de maïs grain et de soya dans les zones les plus belles régions.
Voilà.
Et puis d'autre part, 40 % des terres zones agricoles qui ne sont pas en activité. C'est un garde-manger, il y a beaucoup de tablettes vides dans le cas.
Effectivement, ce que ça démontre, c'est qu'on a un travail à faire éventuellement là-dessus, une réflexion à faire, je pense, collectivement, et ça va prendre également une volonté politique. Malheureusement, on devra reparler de ce sujet-là, j'ai l'impression qu'on aurait eu encore pour une heure, mais malheureusement, le temps nous rattrape, on doit terminer ici. Merci beaucoup tout le monde, merci beaucoup à M. Michel Paradis, Michel Saint-Pierre.
Merci, M. Paradis. C'est moi qui vous remercie, c'était très agréable, merci beaucoup.
C'était La Quotidienne, on se dit à bientôt.